17 milliards de voisins.
On est ensemble. Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, c'est l'été chez 7 milliards de voisins. Suite de notre série Vivre en ville, après Wuhan, la ville brûlante en Chine, retour en Europe. Vivre dans une ville aux 2500 ponts, Hambourg, et non pas Venise, Hambourg en Allemagne, la plus grande ville d'Europe qui n'a jamais été capitale de rien, 7 fois Paris en superficie, 3e port d'Europe. Bonjour Malika Filali.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous êtes professeur d'allemand, de français à l'Institut français d'Hambourg. Vous êtes aussi traductrice. Alors Hambourg a plus de ponts qu'à Venise, plus d'espace aussi qu'à Londres, dit-on.
Oui, et beaucoup d'eau. Oui, beaucoup de ponts, beaucoup de canaux, les canaux qui strient toute la ville et sur lesquels on fait beaucoup de bateaux, de barques, partout on peut se balader. Il y avait même certaines années, les hommes d'affaires qui le matin allaient au boulot, voilà, avec leur petit cartable, ils prenaient le bateau et ils arrivaient directement au centre-ville.
Et en même temps, quand même, vu de loin, Hambourg, ça fait pas rêver comme ville.
Ben oui, on a cette image, vous savez, Amsterdam, Hambourg, les putes, les marins, etc., la grisaille. Et en fait, ce n'est pas du tout ça.
Alors vous allez justement nous raconter comment vous, la franco-marocaine devenue allemande, vous avez adopté cette ville dans laquelle vous vivez depuis...
47 ans.
À Hambourg, vous le disiez, oui. L'eau est partout. La plus grande salle de concert est construite sur l'Elbe, ce grand fleuve qui prend sa source en République tchèque. On prend un verre et un petit sandwich au hareng dans les anciens entrepôts industriels, en regardant passer les immenses porte-conteneurs qui exportent dans le monde entier. Hambourg est une ville lente par rapport à Berlin. Vous allez nous raconter ça, à l'image des navires aussi peut-être, et puis de cette certitude que le business n'est pas prêt de s'envoler. Pas de journée à rallonge au boulot à Hambourg, pas de loyer exorbitant pour se loger, pas de filles bling-bling, parce qu'on n'est pas à Milan, mais dans une cité protestante luthérienne. Alors est-ce qu'on s'ennuie dans une ville aux 2500 ponts? Mais c'est ce qu'on va découvrir avec vous, Malika Filali. On entendra aussi le directeur du film, le directeur du Festival du film de Hambourg, le porte-parole de la Philharmonie, gigantesque salle de concert, même 3 salles de concert. Et puis un petit programme musical hambourgeois. Et on démarre avec la voix craquante en allemand de Schwessi.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Alle gehen ins Kino, zumindest die meisten. Ich kann mir nicht mal umsonst und draußen leisten. Ich hole mir zu beißen, was andere wegschmeißen. Ich flieg die Klamotten, die andere zerreißen. Und zwar sogar, wenn sie echt übel riechen. Doch alles ist besser, als zu dir zurückzukriechen. Ja, wir hatten eine Villa in Blankenese. Luxusproblemen. Erfriert. Fragt sich nur, wer zuerst krepiert. Hab mich inszeniert bis zur Insolvenz. Die Lizenz für den Bands, meine Existenz. Mein Gesicht bleibt hier, ein Gerichtsvollzieher. Das war teuer, ja, ich
investiere in den ganzen Schrott. Gegen Alltagstroll geht das Hirn bankrott, gehen wir zum Schafott.
7 milliards de voisins à l'heure d'été. Vivre dans une ville aux 2500 ponts, on est à Hambourg avec vous en Allemagne. Malika Filali, vous y vivez depuis 47 ans et on vient d'entendre Schwassi. Je vous laisse dire le titre avec votre délicieux allemand.
Liebe macht das Hirn bankrott. Ce qui veut dire à peu près l'amour, c'est la banqueroute, c'est la ruine du cerveau.
Et ça raconte
voilà. Ah bah justement, qu'on ne fait que des bêtises quand on est amoureux et qu'on est délivré que quand le cœur arrête de battre.
Ouais, surtout si on est un homme d'affaires à Hambourg.
Voilà, en plus.
Comment, alors vous avez effectué toute votre scolarité au lycée français de Marrakech, Malika Filali, vous avez débarqué à Hambourg comme jeune fille au pair pour parfaire votre allemand à l'époque, après au lycée, et vous vous souvenez de votre premier hiver à Hambourg, parce que c'est quand même pas tout à fait le même climat.
Ah ben oui, j'arrivais directement, vraiment, à l'époque, fille au pair, j'arrivais pour la première fois dans un pays vraiment européen, du Nord, et c'était l'hiver du siècle. Il n'y a jamais eu d'hiver aussi terrible.
C'était en 69.
68-69, c'est resté dans les annales. J'étais donc dans ce quartier de Blankenese, qui est le quartier ancestral des grands armateurs, et c'est sur une colline avec de magnifiques villas, et j'habitais là, dans une famille allemande, qui me faisait trimer d'ailleurs comme une négresse, je m'en souviens. Et tout d'un coup, eh bien, l'Elbe a gelé. Et je me souviens de ce bruit que je n'avais jamais entendu jusque-là. Le bruit des craquements de la glace, des brises-glaces et le bruit des cornes de brume. Est-ce que vous avez déjà entendu des cornes de brume ? Moi, à Marrakech, jamais. Et c'était absolument, mais absolument merveilleux par la petite
fenêtre.
Ah
oui, vous vous dites quand même merveilleux.
Ah, c'était merveilleux. Ouais. Parce que je n'avais jamais vu pratiquement de la neige, sinon de loin sur l'Atlas à Marrakech. Ouais. Mais donc, c'était très beau.
Ouais,
très
alors, beau. Quel long chemin depuis le continent africain. Hambourg est une ville où il pleut beaucoup.
Oui.
Globalement. Oui. Comment on appelle ce crachin froid qui peut vous tomber dessus en plein mois d'août, là?
C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la Dauerregen, c'est la pluie incessante.
C'est ça, j'avais vu aussi le hamburger Schmiedelwetter.
Voilà, Schmiedelwetter. c'est vraiment la crasse du mauvais temps, là, un petit peu.
Qui vous colle à la peau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a accroché le cœur à Hambourg, vous, une fille de Lorient?
Ben, moi, la fille de Lorient, justement, c'était un petit peu, j'allais pas dire les harems, etc. Mais enfin, la condition des filles n'était pas bien brillante déjà à l'époque. Ça s'est pas arrangé depuis.
Au Maroc, vous voulez
dire ? Au Maroc, bien sûr, à Marrakech. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire de l'allemand, je savais pas du tout où était Hambourg, etc. Mais quand je suis partie au pair, eh bien, cette ville, l'appellation officielle, c'est la Freie und Hansestadt Hamburg. C'est comme ça qu'on appelle cette ville, qui est une ville-État, c'est-à-dire la ville libre et hanséatique de Hambourg. Et qu'une ville puisse être par définition libre, c'était déjà un magnifique symbole pour moi.
Alors, hanséatique, ça fait référence à beaucoup de choses. Il faut remonter au Moyen-Âge.
Oui.
Déjà, un vent de révolte des marchands souffle.
Oui, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est une ville qui a toujours eu, contrairement à toutes les royautés, les monarchies, les grands ducs, les ceci, les cela, c'était des gens qui avaient pour souci et pour préoccupation unique d'enrichir et d'embellir leur ville. Donc on n'a pas claqué son argent dans des guerres dispensieuses, des massacres, des conquêtes, etc. Non, on a été à la conquête de marchés et on a fait de l'argent et on a investi ça dans la ville. Et ça se voit encore aujourd'hui.
Troisième port d'Europe, après Rotterdam aux Pays-Bas, après Anvers en oui. Belgique. Comment est organisée cette ville ? On parle de Hambourg, île urbaine. Alors comment est organisée la ville, les quartiers avec cette eau partout, l'Elbe, ce grand fleuve ?
Alors c'est vrai qu'il y a le centre, c'est en ville, autour de deux lacs qui communique d'ailleurs avec l'Elbe, et ces lacs, ce sont les petits et grands Alster. Et l'Alster, c'est le poumon, c'est le cœur d'Hambourg, et le centre-ville est autour de ces deux lacs. On y fait du bateau, on y fait du voilier. Alors en été, on ne voit pratiquement plus rien de l'eau, tellement qu'il y a de voiliers de toutes les couleurs. Et parfois, quand on a beaucoup de chance, en hiver, les deux lacs gèlent. Et là, toute la ville attend le cœur battant. que le Rathaus, l'hôtel de ville, donne l'Alster à la population. Ça veut dire que vous avez jusqu'à 300 ou 400 000 personnes qui se déversent sur les deux lacs.
En patin à glace.
En patin, en luge. On voit des messieurs sur patin, mais traînant le berceau, la poussette du bébé. Des stands se mettent dessus, ça sent le vin chaud, etc. C'est magnifique. Donc, ces deux lacs sont vraiment le centre de la ville.
Vous nous parliez de cet esprit hanséatique, c'est-à-dire cette ligue des marchands qui date du Moyen-Âge. Mais est-ce que c'est encore palpable aujourd'hui dans la sociologie de la ville? Tout le monde ne tourne pas autour du port dans son activité professionnelle quand même. Alors qu'est-ce qu'il en reste dans les codes, dans les relations sociales? À l'époque, on parlait des sacs à poivre, c'était ça?
Voilà,
les marchands.
Voilà.
C'est-à-dire que parce que vraiment, c'est le commerce des épices.
Oui, c'est une grande plaque tournante encore aujourd'hui. Pour les épices, le thé. Les tapis orientaux aussi, beaucoup. Alors on est ouvert sur le monde et aussi beaucoup sur l'Amérique du Sud.
Le marché des voitures aussi. Des voitures d'occasion qui partent notamment vers l'Afrique.
Ce qu'il en reste, c'est une espèce de, je dirais, de rigueur. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Trahir la parole donnée. Il y a encore dans les grandes affaires, entre grands hommes d'affaires, certains accords qui se font uniquement oralement. Et il ne viendrait à l'esprit de personne d'y faillir. Donc, quand on dit de quelqu'un « Ah oui, oh là là, c'est un hanséatique », ça veut dire ça rigole pas. Il y a une grande rigueur.
Alors, ça rigole pas et il y a de l'argent dans cette ville. C'est visible à l'œil nu.
C'est comme j'avais baladé une fois une grande dame française, Elisabeth Badinter, qui pourtant n'est pas très, très, je dirais, exubérante. Ouais, mais
philosophe, écrivain, épouse de l'ex-garde des Sceaux qui a aboli la peine de mort en France, Robert Badinter, sous François Mitterrand.
Et elle était venue justement pour présenter une conférence dont le sujet était très sérieux, etc. Et je l'avais un peu baladée, et elle arrivait justement à Hambourg avec cet esprit de se dire
«
vulgarisable ».
Etc.
Et c'était un mois de mai, et vraiment, c'était vraiment ce jour-là un petit peu paysage carte postale. Et nous étions devant justement ce fameux Alster avec les petits voiliers. Et elle m'a dit: Malika, quelle ville opulente!
Quelle ville opulente! Et paradoxalement, le coût de la vie, le coût des logements n'est pas si élevé que cela?
Non.
Comment c'est possible?
Je n'ai jamais très bien compris comment des gens qui ont un niveau de vie assez élevé et qui ont des salaires assez élevés, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Même la nourriture, même etc. On peut aller dans un restaurant, tout ce qu'il y a de plus correct, joli, etc., bien manger, pour entre 8,50 euros et 11 euros.
Ah oui,
dans un joli quartier. C'est quelque chose qui est hors de question, qui est hors de...
Pour se loger ?
Alors, évidemment, ça dépend des quartiers. Il y a des très jolis quartiers résidentiels le long des canaux, justement. Mais dans l'ensemble, moi, j'habite un petit appartement dans le centre, sur une petite cour idyllique, jardin, etc., dans un quartier branché qui serait peut-être même l'équivalent du Marais, en toute simplicité. Et pour un 70 mètres carrés, je paye 600 euros. C'est...
Alors là, vous êtes en train de faire rêver pas mal d'auditeurs dans certaines villes, et pas que à Paris d'ailleurs, dans certaines capitales subsahariennes qui sont devenues hors de prix.
Mais même à Casablanca, c'est plus cher.
Exactement, exactement. On parle parfois d'une certaine lenteur à Hambourg, en tout cas, par rapport à Berlin, peut-être, plus vibrionnante comme ville.
Non, c'est plus mesuré. C'est plus mesuré, les gens sont plus posés. Alors quand je suis arrivée, on ne s'est pas précipité sur moi. On a une espèce de regard scrutateur, on examine d'abord les gens. Et quand ils font le petit effort qu'il faut pour aller à leur rencontre, il y a une espèce de gentillesse et on communique très facilement. D'ailleurs, dans la rue, quand vous êtes en train de regarder un plan, vous avez tout de suite 3-4 personnes qui viennent vous demander s'ils ne peuvent pas vous aider.
Mais tout ça très tranquillement, ce n'est pas le rythme de Berlin, Paris,
pas du tout,
ou de New York. Est-ce à dire qu'on pourrait s'ennuyer à Hambourg? En tout cas, aujourd'hui, temps couvert à Hambourg, 27 degrés, mon Dieu que c'est bon cette fraîcheur, comparée à la fournaise de Paris.
Yo, ich bin Jung John, eine Worte kann vorn. Das ist deine Brise von vorn, gib mir Jumma Cola Ohren. Yo, jeden Abend oben, switch und komm erst frisch, wenn einem Geld ist. Futsch, Mann, in der Chin, go mir aus der Sinn. Ich bin, was ich bin, komm mir nicht an die Glück. Doch komm, fix mal rum, um die den Orden anzubiegen. Wie uns da ist, immer was los, auf deine Dien. Seh dir erstmal vorn im Köln und Nord. Was schmeckt dir das nicht, ist mir das auch schied egal. Du bist im Wolken schlimm, weil ich hätte dich so schlimm. Aber pass auf, du Tüffel, wie nehmt ihr auf die Schiffe? Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen. Und ich liebe es an der Party, breiter Mensch reinzuschlafen. Ich bin ein Hamburger Jung und ich komm voll in Schwung, wenn ich hüpf und spring und von Hamburg sing. Samstagabend ein Köln und ein kühles Blondes. Und auf die Schnelle noch eine Fischfrikadelle. Schon Stördebäcker wusste, dass dann Norden rockt. Und hat mit seinen Kahn hier gleich angedockt. Ja, ihr hört richtig, heute ist Disco-Zeit. Weil alles nach Disco schreit. Und ihr fragt euch, ob der König das versprochene hält. Ja, na klar, denn ich bin nordisch by nature.
Genau mein Ding, weil ich ein D-E-E-So-Sixer bin. Oh, ich sing, ein Slate von der Vatikan schickt seine Disco-Vibrations übers ganze Land. Ein Nordisch wie ich ist nicht erpicht, ab wie ein Haltung von Regeln, die irgendein Gericht ausspricht. Nein, es spricht die Norm und die Gesetze gekonnt. Hier gibt es nur Flachland, aber deshalb einen weiten Horizont. Nicht geboren auf Jamaika, doch zu rollen mit der Zunge ist ein Klacks. Bin Hamburger Jung, bitte bye bye, bitte bye bye. Komm, komm, follow me. Ich trinke Holsten und ich liebe St. Pauli.
Fettesbrot, un des groupes de hip-hop des années 90, encore très très populaire, les plus célèbres d'Allemagne, originaire de Hambourg, et ils chantent « Ich bin ein Nordisch by nature », avec pas mal d'ironie sur la ville, non Malika?
Oui, 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 il y a tous les pensifs du genre, ils vont à tel endroit comme
donc
tout le monde.
Donc je suis un nordique, c'est
voilà,
ça je reste un nordique.
Voilà, je mange des boulettes de poisson, etc. Enfin, c'est tout.
La ville aux 2500 ponts, racontée par Malika Filali, Hambourg, en Allemagne. Vous dites souvent, quand vous parlez de cette ville que vous avez, qui vous a adoptée il y a 47 ans, vous, la franco-marocaine, aujourd'hui également allemande, que ce n'est pas une ville historique, mais une ville de culture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Malika Filali ?
C'est-à-dire qu'il s'y passe, quand on veut, beaucoup de choses. Il y a de la francophonie aussi, il y a des festivals, des cycles de cinéma français, il y a de la présence même arabe, il y a il y a des concerts.
Et on le découvre d'ailleurs avec notre programme musical, une vraie scène musicale branchée.
Oui, très branchée, très branchée.
Non, parce que vous nous disiez, c'est une ville un peu lente, où tout le monde est quand même très corseté, très... poli. Alors bon, vu de loin, les auditeurs se disent, mais est-ce qu'on peut s'amuser à Hambourg ?
Alors oui, parce que j'ai été frappée dès le début par le fait que les Hambourgeois avaient le sens de la fête. Et je pense que c'est parce que les hivers sont longs et que dès le mois d'avril, pratiquement, il y a une espèce d'explosion dehors. Oui. Et alors, il y a des fêtes de rue, il y a des concerts de rue, il y a des marchés aux puces, il y a des fêtes sur les bords des canaux, etc. Et je pense que c'est justement parce que on vit enfermé, bien obligé, pendant les mois d'hiver.
Et d'ailleurs, pour écouter de la musique, il faut avoir de belles salles de concert. C'est le cas de Hambourg maintenant. Nous sommes en ligne avec Tom Schulz, qui est porte-parole de la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg. Bonjour Tom Schulz.
Bonjour Emmanuel.
La Philharmonie
Bonjour
de l'Elbe.
Malika.
Bonjour,
à Hambourg, il faut aller sur internet, là, si vous nous écoutez, les voisins et les voisines, vous tapez Philharmonie Hambourg, parce qu'il faut voir les photos. C'est un bâtiment qui est quand même incroyable, qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, en janvier 2017. Trois salles de concert, un hôtel, des appartements de luxe, la plaza qui est cette terrasse panoramique ouverte à tous. Ça a été 10 ans de chantier titanesque, plusieurs millions de visiteurs depuis l'inauguration. Vous pourriez nous dire, Tom Scholz, à quoi ressemble ce bâtiment qui a une forme très étrange quand même, avec l'eau partout, sur les trois côtés en tout cas?
Je crois que ça paraît à rien d'autre. Peut-être le plus proche, ça sera peut-être un très très grand navire, un bateau,
oui, c'est ça,
en forme de vague.
Oui, oui.
Comme c'est un immeuble composé de deux parties. Il y a une base en briques rouges qui est très emblématique pour Hambourg, ce matériel. Et au-dessus, il y a une structure en verre, très très impressionnante et fière, je dirais même. Et c'est très très beau à regarder.
Alors la base, ça a été construit sur d'anciens entrepôts industriels.
Oui, c'était un très très grand entrepôt qui a été construit dans les années 60 du 20e siècle.
Et alors aujourd'hui, quel est le public de la Philharmonie qui a été inaugurée en grande pompe donc en 2017 avec Angela Merkel? Ça a été évidemment un événement, une construction, un financement très, très coûteux, et aujourd'hui c'est devenu le bâtiment emblématique de la ville. Mais finalement, pour qui? Est-ce que c'est très élitiste? On vient là écouter de la musique classique dans une salle à l'acoustique parfaite, très feutrée?
Je dirais que c'est bien les deux. C'est une salle super belle et super bonne au point de vue d'acoustique. Et en même temps, c'est une maison pour tous. On fait plein de choses avec des amateurs de musique qui ont des orchestres ici, qui ont un chœur, qui chantent ici. Et en plus, on a une programmation très très diverse avec, je dirais peut-être 80% de musique classique. Et à part ça, c'est beaucoup du jazz, du world. On avait beaucoup de musiciens d'Afrique comme Youssou N'Dour, comme Angélique Kidjo, comme Bassé Koukouyaté, des musiciens afro-cubains, des pianistes comme Gonzalo Rubalcaba. Et en même temps, on a à peu près 40 orchestres internationaux qui sont très très connus et très beaux.
Ouais. Et en termes de prix, c'est accessible?
C'est très accessible. Ça commence parfois avec des billets qui coûtent moins que 10 euros.
Mmh. Et ça peut monter jusqu'à...
Ça peut monter jusqu'à 485 euros, 200 euros. Oui, dans la première catégorie. Mais c'est très génial parce que les places qui sont moins chères sont acoustiquement avantageuses, je dirais.
Donc vous avez dit ça peut monter jusqu'à près de 200 euros, hein.
Oui.
Ouais. Et qui finance la Philharmonie?
C'est un mix entre la ville et des sponsors, des donateurs et la vente du billet. À peu près un tiers pour chaque de ces trois groupes, je dirais.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez, qui parlez parfaitement français, vous avez vécu en France, Tom Scholz, est-ce que vous avez le sentiment que la musique classique est moins élitiste en Allemagne, dans une ville comme Hambourg?
Je suis pas sûr si c'est vrai, mais dans cette maison ici, dans cette salle de concert, on a bien l'impression qu'il y a un public totalement nouveau qui est ajouté aux amateurs de la musique classique d'avant. Mmh. Alors il y a maintenant beaucoup de gens entre les 30 et les 50 ans qui manquaient dans les salles de concert avant, qui viennent maintenant, qui sont très enthousiasmés d'écouter de la musique d'une telle qualité et dans une ambiance tellement... belle.
Ouais. Et vous-même, vous pratiquez, vous jouez d'un instrument de musique?
Ouais, j'ai étudié la contrebasse, je travaille comme DJ toujours.
Ah d'accord.
Et, ouais.
Formidable. Malika Filali, comment vous ressentez l'enseignement de la musique classique dans une ville comme Hambourg?
Eh bien moi, j'ai vécu l'étonnement des familles françaises qui arrivaient en France et qui me demandaient justement conseil pour des cours de musique pour leurs enfants. Et qui
en Allemagne, vous voulez dire,
en Allemagne, quand ils s'installaient à Hambourg. Et de voir leur ravissement devant l'enthousiasme de leurs enfants qui, loin des cours de solfège, de dictées musicales rébarbatives, étaient tout de suite confrontés à la musique, tout de suite au plaisir de jouer des petites mélodies, etc.
À l'émotion. Vous confirmez, oui. Tom Scholz?
C'est comme
ça que vous êtes vous-même venu à la musique?
Moi, c'était un peu différent parce que moi, on avait encore le piano à la maison, alors c'est déjà toujours un peu privilégié, je dirais. Mais ici, dans la Philharmonie de l'Elbe, on a une collection d'instruments qui donne du violon jusqu'au iPad. Et il y a toujours des jeunes gens qui viennent, des élèves scolaires qui viennent tous les matins et qui font des expériences très pratiques avec les instruments. Mm.
Et toujours avec cette facilité, cet aller-retour facile entre le classique et le jazz et la musique d'aujourd'hui?
Oui, oui.
Merci Tom Schulz d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une très très bonne journée à Hambourg. Je sais qu'il fait beaucoup plus frais, donc porte-parole de la Philharmonie de l'Elbe de Hambourg. Merci, très bonne journée à Hambourg.
Merci à vous Emmanuel. Au revoir.
Malika, on va accueillir maintenant un autre invité. Albert Widerspiel est avec nous, en ligne avec nous. Bonjour Albert Widerspiel.
Bonjour Paris.
Bonjour Albert.
Et bonjour Hambourg.
Malika.
Vous êtes directeur du Festival du film de Hambourg depuis près de 15 ans. Alors, vous n'êtes pas hambourgeois vous-même?
Non, du tout. Je suis né en Pologne, je suis juif polonais. Par un détour par le Danemark et la France, j'ai atterri en Allemagne en 85. Et je suis effectivement à Hambourg depuis 95, donc pas aussi longtemps que Malika, mais presque, je m'approche.
Et alors, quel est votre regard sur la ville?
Ben, je suis très d'accord avec Malika. Elle a dit beaucoup de choses que je peux souligner moi-même. Moi aussi, je trouve qu'il y a cette espèce de rigueur, austérité, ville protestante. Mais il faut dire aussi, c'est quoi Malika l'a dit, c'est magnifiquement beau. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une très belle ville. Et j'habite un peu à Berlin, beaucoup à Hambourg. Et je peux donc, avec bonne conscience, dire que c'est la ville beaucoup plus belle que Berlin. Berlin
est intéressant. Vous allez vous faire des ennemis.
Berlin intéressant. Berlin, il y a plein de choses à Berlin. Mais c'est pas beau. On peut vraiment pas dire que c'est beau. Mais donc, chez nous, il y a une beauté, surtout due à beaucoup d'eau. Comme disait Malika, il y a ces deux lacs qui dominent le centre-ville et qui est vraiment la cœur, c'est le cœur de la ville. Et ça, c'est un plaisir de regarder, de voir.
Ah, et parce que ça permet aux bâtiments très anciens aussi de se refléter dans l'eau. Et puis, des bâtiments historiques qui vont jouxter des immeubles de bureaux beaucoup plus modernes. C'est un peu ça que je comprends, moi qui n'ai pas la chance d'être allé à Hambourg.
Tout à fait. En plus, il faut le dire, on a eu la chance. Hambourg a été beaucoup détruite pendant la guerre. Il y a eu de fortes bombardements en 1943. Mais la ville a été magnifiquement reconstruite. C'est-à-dire, il y a des villes qui ont été reconstruites vite et pas très jolies. Mais à Hambourg, on avait fait un grand effort dès années 50. Ce qui fait qu'on a quand même des anciens immeubles en plein centre-ville. Et ça donne quand même une charme plus que les bâtiments des années 50.
Alors le festival du film de Hambourg qu'on appelle Festfilm, c'est ça?
Filmfest, c'est ça, de
Hambourg, qui se déroule à la fin de l'été. C'est pas la foire aux célébrités du festival de Cannes ou même la Berlinale. C'est un festival qui est plus intimiste quand même, non?
C'est plus intimiste, c'est fait surtout pour les publics hambourgeois, c'est pas fait pour l'industrie. On est très content s'il y a l'industrie cinématographique qui arrive, mais notre public, c'est vraiment le cinéphile d'Hambourg. On n'est pas, je crois que ça a été dit avant, on n'est pas une ville de blink-blink, donc on ne fait pas un festival blink-blink non plus. On essaye de faire un festival un peu plus politique, qui pose... Je dirais pas qu'on donne des réponses, mais on pose beaucoup de questions. Je trouve ça c'est déjà important aujourd'hui. On montre des films qui posent des questions et qui font que les gens commencent à réfléchir sur les conditions politiques dans le monde entier. Mmh. On est content de recevoir des stars, on a un tapis rouge, c'est très bien, mais c'est pas notre idée principale.
Mais est-ce que ça, c'est le reflet de la ville de Hambourg ou ce festival laisse aussi une empreinte sur la ville de Hambourg?
Je crois que ça correspond un tout petit peu à la mentalité ici qui n'est pas vraie. C'est vrai, comme disait Malika, c'est une ville protestante où on se retient un peu, on est beaucoup plus, comment dirais-je, on est effectivement un tout petit peu plus austère, c'est vrai. Par rapport aux autres villes, c'est marrant, il y a toujours, on parle toujours entre Munich et Hambourg, c'est les deux grandes villes en dehors de Berlin, en Allemagne, et Munich, qui a aussi un grand festival, mais qui est un festival que moi je dirais c'est un blink-blink. À Hambourg, c'est carrément pas pensable, parce que nos politiciens sont pas intéressés par le blink-blink, donc il y a tout un monde qui n'est pas là. Donc on essaye de faire un tout petit peu plus je dirais sérieux.
Ouais, alors vous avez rhabillé certaines villes pour l'hiver, hein, je pense là, Albert Wiederspiel. Vous êtes un étranger, vous êtes arrivé, vous avez ce poste merveilleux de directeur du Festival du film de Hambourg. Vous êtes marié à un acteur allemand, vous vivez entre Hambourg et Berlin. Ça montre aussi que c'est une ville qui est dans la retenue, mais très ouverte.
Extrêmement. Enfin, ça, j'ai toujours trouvé que la ville, c'est peut-être la ville en Allemagne la plus ouverte vers l'étranger, vers le monde comme ça entier. En plus, ce qu'il faut dire, Malika, j'espère que vous êtes d'accord, c'est une ville qui est beaucoup plus francophone qu'on le pense. Avant, on disait toujours à Hambourg, c'est tellement britannique, ça se veut Londres. D'après moi, c'est passé. On veut au moins être aussi Paris que Londres. Il y a beaucoup plus de francophones qu'on le pense, à tel point que moi-même, j'ai fait une section de cinéma francophone pendant le Film Fest parce qu'il y a un public, oui. Il y a vraiment il y a un appétit pour le cinéma francophone. Donc, il y a
Et puis ça vient aussi un peu de vous quand même, parce que vous avez étudié le cinéma à la Sorbonne. Et
je ne le cache pas.
Du votre excellent.
Ça vient aussi de moi, mais il y a un public, il y a beaucoup de francophones à Hambourg qui sont très contents.
Alors Albert, sinon francophone...
Une chose, voilà. Un mot qui n'a pas encore été mentionné dans cette édition, le hamburger, qui est quand même un mot mondialement connu.
Oui.
Pas très positif peut-être, mais on en est quand même fiers. Alors l'histoire, elle dit que c'est un immigrant allemand en arrivant aux États-Unis qui a fait des boulettes et il les a appelés hamburgers.
Et qui a su bâtir une fortune, en tout cas faire de l'argent avec.
Jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, Malika et moi, on est des hamburgers maintenant, il faut le dire.
C'est ça, vous êtes des hamburgers. Tous les deux, politiquement, on dit que Hambourg n'est ni vraiment à droite, ni vraiment à gauche. Comment ça évolue aujourd'hui, Malika Filali?
Alors d'abord, je rappellerai que Angela Merkel est hambourgeoise.
Oui. Et elle est née à Hambourg.
Elle est née à Hambourg, c'est pour ça. Je
bien
dis, elle est hambourgeoise.
Bien que grandie en Allemagne de l'Est.
Oui, mais elle est née à Hambourg. Et
l'ex-Allemagne de l'Est est tout près d'ailleurs, à quelques kilomètres.
Hein. Bien sûr. Nous sommes à 25-30 kilomètres. C'est pour ça que pendant le communisme, il fut un temps où la ville commençait à s'étioler. Jusque dans les années 80, et c'est vraiment au moment où le mur est tombé que ça a donné un coup de fouet absolument extraordinaire à cette ville. Et c'est pour ça qu'il y a eu des projets comme la Philharmonie, etc., qui ont vu à ce moment-là le jour.
Alors on va y revenir, mais vous alliez ajouter quelque chose par rapport à l'intervention d'Albert Wiederspiel, qui est toujours en ligne avec nous.
Oui, il parlait de la francophonie, sinon vraiment, vraiment francophone, ce qui est assez vrai d'ailleurs. Mais c'est surtout qu'ils sont extraordinairement francophiles. Il y a un amour de la France que je trouve souvent assez touchant. Assez touchant.
Et sur le positionnement politique de la ville de Hambourg, Albert Wiederspiel?
Alors, traditionnellement, c'est une ville de gauche. Alors, ça paraît curieux parce que c'est une ville des riches, des armateurs. Mais depuis la guerre, ça a été une ville gouvernée par les SPD, par les socialistes. Sauf une petite période de 8 ans où c'est la CDU qui est venue au pouvoir. Oui. Mais sinon... Pour le moment aussi, on a un gouvernement de socialistes en coalition avec les Verts. Donc, une bonne tradition de gauche, on espère que ça va continuer comme ça.
Oui, on a bien compris votre position, parce qu'évidemment, quand on gère un festival du film, on a intérêt à avoir des subventions publiques.
Absolument.
Merci d'avoir été en ligne avec vous, Albert Wiederspiel. On vous souhaite une très très belle journée sur l'Elbe à Hambourg.
Merci beaucoup
à vous. Malika Filali, on le disait, Hambourg est à une vingtaine de kilomètres de l'ex-Allemagne de l'Est. C'est une ville qui, vous nous le disiez à l'instant, a beaucoup changé après la chute du mur en 1989. On va en parler juste après le groupe Tomt.
Ist das Wetter noch intensiv? Sind die Bars noch laut wie Kriege? Weißt du, mit wem du gestern schliefst? Du bist ein hübscher Junge in einem schönen Quartier. Fühl dich einmal wie ein König. Ich weiß, heute Nacht geht jemand mit zu dir. Und wer hat es ans Ufer geschafft? Und alle 20 Minuten denkst du an Elliot Smith. Alle 100 Jahre kommt jemand wie ich und nimmt dich mit. Wie sieht's jetzt in Hamburg aus? Halte
Sitz aus Hamburg, ça veut dire Malika.
De quoi a l'air Hambourg ?
C'est ça. Et le chanteur Tissulman dit, du groupe Tom Teddy, à quoi ressemble Hambourg ? Est-ce que le climat est encore intense ? Est-ce que les bars sont encore bruyants comme les guerres ? La chute du mur en 1989, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des habitants, Malika Filali, finalement ?
Bah nous, ça a changé beaucoup de choses dans la minute qui a suivi. Ça a été très spectaculaire parce que comme nous étions juste à côté, nous avons eu tous ces gens qui étaient directement dans la partie de l'autre côté, qui était le Mecklembourg.
L'ex-RDA.
C'était la partie du Mecklembourg. Mecklembourg-Poméranie. Et donc, des cousins de mon mari sont arrivés et se sont mis dans leur Trabant. Et chacun avec 100 Deutschmark. C'était le cadeau de l'Ouest aux gens de l'Est. Ils se sont mis dans leur Trabant et ils sont arrivés chez nous 24 heures après. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai vu des images absolument surréalistes. À l'époque, on ne brandissait pas les portables encore, mais j'ai vu des Trabant voisinés avec des Rolls-Royce magnifiques des gens de Hambourg et une espèce de fraternisation absolument extraordinaire. Et donc, nous avons baladé les cousins qui ouvraient des yeux évidemment absolument ébahis. Et je n'oublierai jamais cette cousine qui m'a dit après... Écoute, Malika, ça vous sert à quoi d'avoir 18 marques différentes de moutarde ? Et j'avoue que j'ai eu du mal à lui
expliquer.
C'était
en 1989.
Voilà, lui expliquer tous les rouages du capitalisme, c'était un peu difficile. Je me suis posé la question aussi.
Mais ça a été en fait complètement salutaire pour Hambourg, qui, vous le disiez, s'étiolait un peu dans l'ennui, d'une certaine manière. Pourquoi ça a redonné vie à Hambourg ?
C'est-à-dire que du coup, Hambourg avait un arrière-pays. C'est-à-dire que c'était plus une voie sans issue. Ça s'arrêtait là, à 30 km plus loin. Donc là, il y a eu un essor, il y a eu beaucoup de gens de l'Est qui sont venus, il y a des gens de l'Ouest qui sont partis aider à la reconstruction, etc. Et c'est là qu'il y a eu tous les grands projets, dont la Philharmonie en particulier. Tout ça s'est reparti et ça a fait ça a donné un coup de fouet à cette ville absolument extraordinaire.
Cette Philharmonie qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à sortir de terre, ou plutôt à sortir de l'eau, puisqu'elle donne l'impression d'être vraiment au milieu de l'eau, ces trois immenses salles.
C'est comme un mirage.
De concert, ouais. Alors, tous les dimanches à Hambourg, il ne faut pas rater le marché aux poissons. Vous y allez vous-même ?
Ah, mais j'avoue que je suis bon public régulièrement, en particulier quand j'ai de la visite. Je remets mon réveil à 6 heures du matin.
Ah
parce
bon ?
Ah oui, il faut y aller aux aurores, bien sûr, parce que le poisson, ça n'attend pas. Et voilà, alors comme c'est en pleine ville, c'est ça qui était un petit peu miraculeux dans cette ville, c'est que vous avez tout dans le centre. Donc on arrive au port et dans les barques, il y a encore le poisson tout frais. Et puis, il y a ce marché aux poissons qui est très bruyant et qui m'a tout de suite, dès les premières fois, rappelé les bazars de Marrakech. Je m'y sentais comme chez moi. Alors, vous avez des camions qui viennent de Hollande le matin, très de bonne heure. Et puis,
donc
des chalands qui
hurlent. Donc, c'est la pêche en mer du Nord.
Oui, et ils hurlent. Ils vendent leur cajot. Alors, il y a non seulement du poisson, mais il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des légumes, etc. Et c'est des hurlements. On vend la marchandise en faisant. Et de temps en temps, on jette comme ça des bananes dans la foule.
Ah bon?
Oui, tout le monde hurle de joie, etc. Il y a une ambiance extraordinaire.
Et les fameux sandwichs au hareng?
Ah oui, alors là, à 6 heures du matin, on mange son sandwich au hareng. Et après, on arrive dans une espèce d'entrepôt qui est une gigantesque salle de jazz. Et il y a de la musique à 7 heures du matin. Et vous voyez des grands-mères, des petits, des adultes, tout ça. Ça swing, ça chante et ça bouffe son sandwich au hareng.
Et sans canailler à Hambourg, alors, il y a un lieu spécifique pour ça?
Oh, bah écoutez, demandez à Edith Piaf des gens, hein, les quartiers à Marin, etc. Il y a le fameux quartier du Reeperbahn, qui est quand même le quartier de la prostitution, parce qu'il ne faut pas oublier que la prostitution est légale en Allemagne.
Non, mais moi je pensais plutôt à la musique aussi. Hein,
ah, vous pensez à la musique? Oui. Ah oui, il y a un mélange des deux. Hein, dans les quartiers branchés, il y a ça et il y a le reste.
Salle de concert, beaucoup de groupes qui enregistrent aussi. Il y a des studios d'enregistrement de très grande qualité. Beaucoup de groupes qui viennent enregistrer des albums à Hambourg. Ça, on le dit beaucoup moins d'ailleurs. Vous nous parliez il y a quelques instants, tout à l'heure dans l'émission, Malika Filali, de votre quartier. Alors, où est-ce que vous habitez exactement? À quoi ressemble votre quartier?
Alors mon quartier est également dans le centre, il est pas loin de ce fameux Alster, de ce lac du Grand Alster, et beaucoup de petits canaux. Dans mon précédent appartement, j'avais mon balcon qui donnait directement. Le matin après le petit déjeuner, je secouais mes miettes au-dessus pour donner à manger aux canards qui passaient sous l'appartement.
Se déplacer à Hambourg, est-ce que c'est une ville comme le reste de l'Allemagne où c'est quand même un pays où la voiture est reine, même s'il y a beaucoup de vélos, mais c'est quand même aussi le pays des grosses cylindrées?
Oui, c'est vrai, on a sa voiture, mais Hambourg, comme ça a été, comme disait Albert, beaucoup détruit, ça a été reconstruit avec de larges avenues, des rues et beaucoup de pistes cyclables. C'est-à-dire que on fait beaucoup de vélo. Vous avez même des hommes d'affaires qui le matin partent en vélo, la cravate au vent, c'est assez drôle, et qui vont. Le vélo est complètement partie intégrante de la ville.
Ouais. Et à un vrai de vrais projets écologiques, ça a été la première ville à interdire les moteurs diesel il y a un an, en 2018.
Oui, il y a une grande conscience, de l'écologie. On est très sensibilisé. Ça se voit déjà même aux enfants qui, très souvent, font la leçon à leurs parents, etc. Il y a beaucoup de sensibilisation dans les écoles à Hambourg aux problèmes écologiques, etc. Et d'ailleurs, Greta...
C'est ce que j'allais dire. Greta Thunberg est passée aussi
par
l'Allemagne. Vous nous avez parlé des hommes, mais c'est quoi une hambourgeoise typique?
Alors, il y a bien sûr la hambourgeoise qui est dans cet esprit dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ici, ce qui me surprend toujours, ce n'est pas extravagant. Il n'y a pas cette extravagance.
Ah, vous trouvez que les Parisiennes sont extravagantes par rapport à la ville d'où vous venez, finalement?
Oui. Il y a un ou deux quartiers à Hambourg où il y a des punks, des ceci, des cela, un petit peu. C'est ce qu'on appelle la Schanze. C'est le quartier un peu bohème, etc. Mais sorti de ce quartier, il y a quand même un certain classicisme à Hambourg. Hein. Et alors, les dames chics, de Blankenese en particulier, et des quartiers résidentiels, sont habillées. Il y a une femme qui personnalise très bien, qui représente, qui symbolise ce goût de la retenue. C'est Jill Sander qui fait parler d'elle même en France.
Alors quand on voit, styliste, une marque assez connue,
voilà, et qui est totalement caractérisée par ses teintes beige.
Donc qui est une hambourgeoise.
C'est une hambourgeoise.
Donc le beige de bon ton, hein,
voilà.
C'est ça.
Alors quand on est un petit peu plus extravagant, on fait le bleu foncé, qui est un peu maritime, c'est aussi une des couleurs d'Hambourg.
Bien coupé, belle matière,
voilà.
Mais il ne faut pas se faire remarquer.
Le charme discret de la bourgeoisie hanséatique.
Et aujourd'hui, Malika Filali, est-ce que vous vous sentez une hambourgeoise?
Bien écoutez, non seulement je me sens une hambourgeoise, mais je pense que si j'ai eu autant de facilité à me sentir dans cette ville, c'est que finalement, à Marrakech, je devais déjà être hambourgeoise par certains côtés.
Sans le savoir.
Sans le savoir. parce que j'ai eu une espèce de facilité déconcertante à me faire d'abord à cette espèce de rigueur. On est à l'heure. Moi, j'étais à l'heure à Marrakech et c'était une catastrophe parce que j'embêtais tout le monde. À Hambourg, c'est une évidence. Et il y a des règles non écrites qui font que même quand les gens ne respectent, n'ont pas envie de respecter quelque chose, ils le font par crainte de la réaction d'autres gens qui sont à côté. Il y a une espèce d'autorégulation à l'intérieur de la population qui est étonnante.
Et finalement, pas pesant ?
Ben non, parce que c'est, si vous voulez, on y trouve, on s'y retrouve. Quand les choses sont bien organisées, en tout cas, moi, je m'y suis retrouvée. Je ne veux pas ériger ça en principe universel, mais je m'y suis retrouvée.
Malika Filali, 47 ans passés à Hambourg, qui est devenue donc votre ville d'adoption. Vous avez la triple nationalité.
Oui,
je cumule. Française, marocaine, allemande. Qu'est-ce qui vous manque de cette ville quand vous la quittez pour quelques semaines ? Est-ce qu'il y a une image, une couleur, des odeurs, des sons ?
Alors moi, ce qui me manque tout de suite, c'est la lenteur et le calme. Et le sentiment aussi, mais ça c'est peut-être mon petit côté marocain, le sentiment d'être totalement protégé dans la société dans laquelle je vis. C'est quelque chose qui, pour moi, à mes yeux, est inestimable. Mmh. Surtout en tant que femme. Parce que c'est une ville où la drague n'existe pas, le harcèlement non plus. J'y suis arrivée toute jeune femme, j'étais à peu près convenable et agréable à regarder. Et du jour au lendemain, on a cessé de siffler après moi ou de m'importuner, etc. Et j'ai trouvé que c'était ma libération. Et j'en suis encore reconnaissante, 47 ans après, à tous les hommes que j'ai pu rencontrer dans cette ville.
Et il faut le dire, on n'a pas parlé des quartiers turcs, qui sont bien évidemment des populations qui sont arrivées plus tardivement, donc qui habitent davantage à l'extérieur de la ville. Je sais que vous avez vécu aussi l'arrivée des réfugiés syriens. Tout ça cohabite en harmonie à Hambourg, vous diriez ?
Alors, la présence turque est antérieure à la mienne. La présence turque, il y a eu toujours des relations privilégiées entre la Turquie et l'Allemagne.
Je parlais par rapport aux marchands de la Rance du Moyen-Âge.
Ah oui, d'accord. Donc, les Turcs sont arrivés donc, il y a assez longtemps. Les Turcs étaient à l'époque très laïcs. Donc, ils ont eu quand même plus de facilité s'habituer à la ville, etc. Alors, il y a eu, en effet, cette arrivée massive en septembre 2015. 1,5 million de réfugiés dans toute l'Allemagne, beaucoup à Hambourg. Je les ai vus arriver en septembre. J'étais avec ma fille sur le quai de la Grande Gare pour accueillir le premier train de réfugiés. Et là, j'ai assisté à un élan absolument magnifique de toute la population, toute génération réunie. Les enfants des lycées allaient jouer avec les réfugiés, les coiffeurs se mettaient dans la rue et installaient leurs appareils.
On va vous laisser bientôt rejoindre Hambourg, Malika Filali. Merci d'avoir été avec nous chez 7 milliards de voisins pour nous raconter cette ville d'eau, la ville aux 2500 ponts plus qu'à Venise. Merci, très bonne journée à vous, Malika Filali.
Emmanuel. Merci.
Cette émission a été préparée à plusieurs mains. Sigrid Azeroual, Cécile Lavolo, Sophie Janin, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. Petit rappel aussi, 4e édition de RFI Challenge App Afrique qui porte sur la ville intelligente et connectée. Je voulais vous le dire parce qu'on parle des villes ces jours-ci. Là, ça sera les villes en Afrique. Vous pouvez candidater au concours en ce moment. Plusieurs milliers d'euros à la clé pour cette compétition qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs très digitalisés. Si vous avez un projet d'application innovante qui peut améliorer la vie urbaine, transport, déchets, énergie, vous allez sur le site internet appafrique.rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, suite de notre série Vivre en ville.